Bonjour Benoît Perrin, vous êtes le directeur de l'association Contribuables Associés. Alors je voulais vous avoir Benoît Perrin parce que s'il y a un sujet sur lequel vous êtes légitime, c'est celui de la dépense publique, celui de l'augmentation des impôts, celui de l'endettement de notre pays. Le compteur tourne, vous l'annoncez depuis, c'est un combat presque de plusieurs décennies avant la date fatidique. Et la date fatidique, on semble s'en rapprocher, notamment avec la dégradation de la note de la France. Est-ce que cette dégradation qui est finalement minimisé par le gouvernement, dont on parle peu dans les médias traditionnels, est-ce anecdotique ou est-ce que c'est déjà le premier signe de quelque chose de grave, selon vous ?
Alors effectivement, la lutte contre la dette fait partie des combats historiques de notre association qui a été lancée en 1990. C'est pas pour taper sur les gouvernements successifs qu'on s'inquiète du poids de la dette. Je rappelle quand même à vos auditeurs que le dernier budget à l'équilibre, il a été voté en 1974. Donc ça fait quasiment 50 ans que la France vit au-dessus de ses moyens. Et comme une famille fonctionne, dès lors que vous n'avez pas assez de ressources, qu'est-ce que vous faites pour assurer votre train de vie? Qu'est-ce que vous faites? Eh ben, vous empruntez. Et en fait, la dette qui va d'un jour à l'autre dépasser les 3000 milliards d'euros, c'est simplement le cumul des déficits engendrés depuis 1975. Déficits qui effectivement sont tout à fait monstrueux. L'année dernière, on était à peu près à 150, 160 milliards d'euros. Donc on arrive avec une dette qui est effectivement explosive, et comme vous venez de le rappeler, on a été sanctionné, et à juste raison à notre titre, par l'agence de notation Fitch. Comme vous savez, il y a trois principales agences de notation, Fitch en fait partie. On attend avec inquiétude la notation de la plus grande de ces agences de notation, Standard & Poor's, qui devrait arriver début juin. Et Fitch a décidé effectivement de nous rétrograder, c'est-à-dire que nous sommes passés de AAA à A-, ce qui est donc en fait le dernier cran avant de voir notre dette souveraine classée dans la catégorie des dettes à qualité moyenne, supérieure. Donc on va bientôt cohabiter avec Israël ou encore Malte. Donc la conséquence...
Oui, sachant qu'Israël est pardonnable parce que c'est un pays en guerre.
Exactement, tout à fait, vous avez raison de le rappeler. Et du coup, la conséquence pour les Français et les entreprises françaises, elle est double. Un, on va du coup malheureusement emprunter à des taux de plus en plus importants sur les marchés financiers, toujours pour finalement assurer le train de vie de l'État. Et donc la conséquence directe de cette augmentation des taux d'intérêt, puisque nos créanciers vont nous prêter à des taux supérieurs, eh ben c'est très simplement que le coût du remboursement de la dette va être très important. À tel point qu'on, les experts indiquent qu'on devrait à peu près avoisiner dans les années qui viennent, simplement sur les intérêts de la dette, 70 milliards. Pour information, le budget de la justice, c'est à peu près 10 milliards. Donc avec et le budget de l'éducation, c'est à peu près 80 milliards. Donc on est sur une dynamique où bientôt, d'ici quelques années, si on continue à ne pas rassurer les marchés financiers et surtout si on continue à vivre au-dessus de nos moyens, eh bien, on va avoir le premier budget de l'État qui sera finalement consacré au remboursement de la dette. Et la deuxième conséquence, ça va être l'augmentation encore des taux d'intérêt à la fois pour les particuliers, on le voit sur l'immobilier en ce moment, mais aussi sur les entreprises. Donc, ce qui va inévitablement peser sur la croissance de notre pays. Et du coup, on va rentrer probablement dans un cercle vicieux.
Oui, mais les Français ne s'en rendent pas compte. Tant qu'ils peuvent continuer, tant que la paye tombe, tant qu'on peut aller remplir son caddie de course à l'hypermarché, on a le sentiment que c'est quelque chose d'abstrait, que même si on a conscience de cet endettement, la seule réponse que l'on entend actuellement, c'est les riches doivent payer.
Alors c'est très juste, et je crois que ça tient à un élément, c'est que si vous allez dans la rue et que vous demandez aux Français s'ils sont contribuables, il y en a statistiquement un sur deux qui va vous dire « Ah mais moi, je ne suis pas contribuable ». Pourquoi ? Parce que dans l'esprit des gens, on a insisté sur le fait que en fait, il n'y a que les gens qui paient l'impôt sur le revenu qui sont contribuables en France. Ce qui est totalement faux. Ce qu'il faut que vous bien comprendre, et je pense qu'une partie de vos auditeurs va peut-être l'apprendre, c'est que la première ressource de l'État, c'est la TVA. Plus de 200 milliards.
Bah, c'est 20% chaque fois que l'on achète quelque chose, hors les produits de première nécessité.
Exactement. Donc à ce titre-là, on achète un café, on achète un pantalon, on achète une voiture, on est déjà contribuable puisque justement, on paie, on abonde dans le budget de l'État. Donc, il faut bien comprendre effectivement qu'en France, on paie, ça tout le monde l'a bien compris, sur ce qu'on gagne, mais aussi sur ce qu'on vend, typiquement les frais de notaire, les taxes sur les plus-values immobilières ou encore les actions. On paie sur ce qu'on possède, je pense à la taxe foncière, aux droits de succession, aux donations. Et puis, naturellement, sur ce qu'on achète, on vient d'en parler, la TVA. Donc les Français ont l'impression, effectivement, d'être, pour un sur deux, exonérés d'impôts, alors que, encore une fois, ils sont parfaitement des contributeurs et des contribuables de l'État, du fonctionnement de l'État. Et un de nos objectifs, c'est effectivement de mobiliser les Français pour leur faire comprendre que l'argent qui est géré par l'État, c'est leur argent. Donc, ils sont en droit, et d'ailleurs, la Constitution française leur autorise, avec notamment l'article 15 de la Constitution française, qui indique que la société a le droit de demander des comptes à tout agent public de son administration. Eh bien, tout Français a le droit, pour pas dire le devoir, de demander des comptes aux élus et à l'auto-administration.
Oui, mais ce qui est aussi intéressant, c'est que la réaction, c'est il faut faire payer les riches. Et que j'ai regardé un moment dans les déplacements après la réforme des retraites, quand il y avait tous ces déplacements en province et des manifestations et des protestations, sur l'IFI, par exemple, l'impôt sur la fortune immobilière, mais sur l'impôt sur la fortune d'une manière générale, la suppression de l'impôt sur la fortune, des gens avaient des pancartes en disant Emmanuel Macron rend l'argent que tu as volé, faut rendre l'impôt sur la fortune. C'est-à-dire qu'on a, dans la tête de ces personnes, le fait de ne pas prélever un impôt, c'était de l'argent qu'on a volé. Ça va très loin comme raisonnement.
Alors, vous avez tout à fait raison. Et je pense qu'il faut aussi expliquer, c'est que les riches, en fait, ils sont déjà partis de France. Vous avez plus de 2,5 millions de Français qui sont des exilés fiscaux. Donc en fait, ceux sur lesquels repose l'impôt, c'est aujourd'hui les classes supérieures, les classes moyennes supérieures, les classes supérieures, et puis après les ouvriers. Donc très concrètement, aujourd'hui, les riches sont déjà partis. Donc se concentrer sur les riches en disant rétablissons tel ou tel impôt, c'est la quasi-certitude, pour des raisons, pour des bonnes et de mauvaises raisons, le sujet n'est pas là, de voir partir du jour au lendemain les plus riches. Alors vous avez raison. Et Contribuable Associé a toujours milité pour la suppression de l'ISF, mais l'actuel président de la République a préféré supprimer uniquement dans sa partie mobilière, donc c'est-à-dire uniquement sur les produits financiers, l'impôt sur les grandes fortunes. Résultat des courses, on se retrouve avec un impôt qui est payé par des petits retraités qui ont investi dans un bien ou deux biens, pour leur retraite, qui eux sont taxés puisque, comme vous venez de le rappeler, l'impôt sur la fortune immobilière subsiste. Donc aujourd'hui, si vous avez un petit appartement pour votre retraite, vous êtes imposé au titre de l'IFI. En revanche, si vous avez beaucoup d'actions, vous n'êtes éligible, entre guillemets, qu'à la flat tax, donc de 30%, quel que soit votre revenu. Donc nous, ce qu'on propose à Contribuables Associés, c'est effectivement de supprimer tous ces impôts sur ce qu'on appelle les grandes fortunes, pour justement faire en sorte que les riches, ou les plus riches en tout cas, reviennent en France.
Oui, mais vous proposez que les riches reviennent en France, et moi je vois des manifestations où on dit « riche, casse-toi, on veut plus de toi en France ».
Alors là,
je sais pas s'ils sont les plus, qui est les plus nombreux en France. oui, c'est.
Non, mais c'est vrai. Il y a effectivement une détestation d'une partie de la population, en tout cas pour effectivement ceux qui réussissent, ceux qui travaillent. Mais il faut bien oublier, faut pas oublier, pardon, que les premiers assistants sociaux, en quelque sorte, en France, ce sont les entrepreneurs, ce sont les gens qui créent de l'emploi. Puisque grâce à eux, il y a des milliers de familles qui peuvent nourrir leur famille, la loger, la scolariser ou que sais-je. Donc je crois que il faudrait effectivement tout faire pour aider les entrepreneurs qui, eux, encore une fois, ont une mission d'ordre social et peut-être être plus sévère avec ceux qui bénéficient trop du système. Je pense notamment, et là on est vraiment dans l'actualité avec les dernières déclarations de Monsieur Attal, sur tout ce qui est fraude, que ce soit fraude sociale ou fraude fiscale, où là, effectivement, il y a des milliards à récupérer, encore faut-il avoir le courage politique de le faire.
Et bien justement, Benoît Perrin, vous êtes le directeur de Contribuables Associés, on va marquer une pause et je vous retrouve tout de suite après, on va évoquer cette actualité. On se retrouve avec Benoît Perrin, le directeur de l'association Contribuables Associés. Alors, on a évoqué évidemment les mesures du gouvernement, Que faut-il en penser? Ce qu'il faut en penser, j'imagine, baisser les impôts, lutter contre la fraude, vous allez me dire, c'est une bonne chose. Mais que faut-il en pensant, vu sous l'angle du technicien que vous êtes, Benoît Perrin, en tant que directeur de Contribuables Associés, est-ce jouable ou pas? Parce que pour que ça soit jouable, il faudrait aussi annoncer des baisses de dépenses publiques. Et elles ne sont pas annoncées.
Alors là, vous touchez du doigt, effectivement, l'angle mort, quasiment, des politiques publiques ou des gouvernements qui se succèdent depuis plus de 50 ans. C'est effectivement comment faire pour retrouver une santé financière, comment faire pour retrouver une souveraineté en France, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, si on continue à vivre sur un train de vie que nous ne pouvons nous permettre, nous sommes à la merci des créanciers, en l'occurrence des banques et des puissances étrangères, parce que je rappelle que 50% de la dette est détenue par des étrangers. Donc le jugé central, effectivement, vous l'avez bien déterminé, c'est comment faire pour baisser les dépenses publiques. Et ça, pour le coup, il faut un courage politique extrêmement important que quasiment aucun gouvernement n'a été en mesure de faire. Je ne vais pas revenir sur les différents plans d'économie qui ont été lancés. Le seul qui a été globalement efficace, c'est la révision générale des politiques publiques qui a été lancée par Nicolas Sarkozy de 2007-2012, où là, plus de 150 000, vous savez, cette fameuse règle, on ne remplace pas un fonctionnaire sur deux, qui a produit ses effets, qui a été extrêmement bénéfique puisque ça a permis de faire de grosses économies. Pour bien avoir en tête le coût d'un fonctionnaire, quand on embauche un fonctionnaire, c'est à peu près entre 2 et 3 millions. C'est-à-dire, si on additionne son salaire plus sa pension, puisque quand on embauche un fonctionnaire, il faut aussi ensuite payer sa retraite.
Assurer pour sa retraite.
Voilà. Donc entre 2 et 3 millions d'euros. Voilà, ça permet de bien comprendre.
Il faut bien comprendre qu'une réforme qui touche les fonctionnaires, elle se mesure. Si le fonctionnaire a 30 ans, et ben 50 ans plus tard. Hein.
Exactement.
Si on lui laisse
tout à fait,
50
si laisse...
ou 60 ans plus tard. Hein,
c'est exactement ça.
Il décède à 90 ans.
Alors, en général, il commence un peu plus tôt, donc on est plutôt sur du 70 ans de cotisation, en quelque sorte.
Ils vivent longtemps, en plus.
C'est exactement ça. Exactement. Ils sont en bonne santé, tant mieux pour eux. Donc effectivement, les pistes de réforme, c'est d'abord diminuer la dépense publique. Pour diminuer la dépense publique, il faut bien évidemment s'attaquer à deux choses qui nous semblent importantes. La première, c'est tout ce qui est allocation. Il faut bien comprendre que plus de 50% des dépenses de l'État, ce sont des allocations, donc des prestations sociales. Donc, examiner dans ces allocations qui sont versées, dans ces prestations, si elles sont versées au plus juste. Le même magistrat Charles Prats a estimé qu'à peu près la fraude sociale, donc la fraude à des allocations, s'élevait à peu près entre 40 et 50 milliards d'euros, ce qui est une piste de réforme extrêmement importante. Après, il y a évidemment tout ce qui est frais de fonctionnement. Aujourd'hui, on voit bien que l'État, mais surtout les collectivités locales, dépensent énormément en frais de fonctionnement. On vient de dire à l'instant que l'État avait fait de gros efforts sur l'emploi de fonctionnaires. En revanche, les collectivités locales, pas du tout. Et on a vu des embauches par centaines de milliers dans ces collectivités locales, malgré le regroupement de communes, malgré la mise en place d'intercommunalités, on voit des explosions des dépenses. Et puis, naturellement, il faut diminuer le coût du travail, puisque on est en France, un des pays où nous payons le plus de charges dans le cadre du travail, de telle manière qu'aujourd'hui, quand un employeur donne 100, en quelque sorte, à un salarié, le salarié, au final, n'en a à peu près que 47 euros. Puisqu'il y a des charges patronales et des charges sociales qui sont monstrueuses. Pour payer quelqu'un 2000 euros net, il faut débourser à peu près 3500 euros. Donc c'est extrêmement dissuasif pour l'embauche et du coup pour la croissance du pays.
Comment faire changer les mentalités, Benoît Perrin? Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, dans l'abaissement de la note de la France... finalement, Jacques Attali avait dit, cette réforme des retraites, faut la mener jusqu'au bout, on n'a pas le choix, sinon c'est l'abaissement de la note de la France, Emmanuel Macron n'a pas le choix, il ira jusqu'au bout. On sait que c'est vrai ce qu'a dit Jacques Attali, c'était simplement pour protéger finalement la bonne note de la France. Il a mené sa réforme des retraites et Fitch a malgré tout dégradé la note de la France en disant, oui, mais ce qui compte, c'est pas simplement le fait d'avoir mené les réformes, c'est finalement que les Français n'acceptent pas les réformes. Donc, on va plutôt dans le noir, là. C'est plutôt inquiétant. C'est-à-dire, même mener les réformes, ça ne suffit pas. Il aurait fallu que les gens aillent dans les rues ou n'aillent pas dans les rues, ou s'ils vont dans les rues en disant c'est très bien d'avoir mené cette réforme des retraites. Et là, Fitch aurait remonté la note de la France d'un point.
Alors, c'est vrai que Fitch parle effectivement du climat social délétère qui règne en France. Il note aussi d'ailleurs que, pour eux en tout cas, aucune grande réforme ne pourrait être entamée quasiment d'ici la fin du quinquennat, tellement cette réforme effectivement pose problème. Alors là, on reboucle sur ce qu'on se disait tout à l'heure. Je pense que pour qu'il y ait une réforme, pour que la réforme déjà soit mieux acceptée, il faudrait essayer de faire en sorte que tout le monde joue le jeu. Et tant qu'il y a une grande fraude sociale et une grande fraude fiscale, je pense que les Français ne sont pas prêts à faire des efforts tant que l'équité n'est pas respectée. Ensuite, je crois que sur les sujets de pénibilité, le gouvernement s'est pas forcément engagé dans la bonne voie, puisqu'un certain nombre de personnes qui ont des professions un peu, enfin extrêmement physiques, voient cette réforme comme une violence. Et puis je vais vous dire, le fond du fond, c'est que c'est surtout une réformette. On n'a pas attaqué le plus grand des régimes spéciaux en France, c'est-à-dire justement le régime spécial des fonctionnaires, qui voient leur pension calculée uniquement sur les 6 derniers mois, quand les salariés du privé voient leur pension calculée sur les 25 dernières années. Ça, c'était le grand projet qu'il fallait mener. Il fallait aussi permettre aux gens du privé d'injecter une dose de capitalisation dans leur retraite, ce à quoi les fonctionnaires ont déjà droit, notamment par la préfonds. Et puis, il fallait
quand vous dites ça, vous avez des millions de gens dans les rues.
Spéciaux.
Ouais, mais quand vous dites ça, vous avez des millions de gens dans les rues, et donc des Fitch et compagnie vont dire, vu qu'il y a des millions de gens dans les rues, la France n'est pas un bon élève, et on dégrade encore sa note.
Eh ben, disons que compte tenu de la petite réforme qui a été menée, qui devait encore une fois être menée sur la réforme des retraites,
je pense qu'il y a des gens dans la rue,
il fallait effectivement faire effectivement une véritable réforme, puisqu'aujourd'hui, les économies envisagées, c'est seulement à peu près 18 milliards d'euros par an. Donc j'ai envie de dire tout ça pour ça. Non seulement on a des gens dans la rue, non seulement on inquiète les agences de financement, les agences de notation, pardon, mais en plus on fait ça seulement pour 18 milliards d'euros. Si on s'attaque vraiment à la dépense, et d'ailleurs c'est ce que explique Fitch dans sa note, ils expliquent qu'en fait il n'y a aucun plan d'assainissement public qui est prévu. Et d'ailleurs, ils mettent à mal le gouvernement, puisque pour Fitch, la croissance sera un maximum 0,8%, quand le gouvernement envisage un peu plus de 1% de taux de croissance. Donc non seulement effectivement, on se retrouve dans une situation où en fait on n'a que des handicaps, c'est-à-dire qu'on fait une réformette, et en plus, on a les gens dans la rue. Quitte à avoir les gens dans la rue, parce que ben effectivement des réformes il faut en mener, et je crois que le courage politique c'est justement parfois d'aller contre notamment des syndicats qui effectivement défendent leur précaré. Quitte à faire ça, fallait effectivement pour le coup renverser
la table, c'est ce que vous dites,
et le faire en grand, exactement.
Merci Benoît Perrin, je rappelle que vous êtes le directeur de l'association Contribuables Associés. On peut vous retrouver notamment via le site contribuable au pluriel contribuable.org. Merci Benoît pour ce tour d'horizon.
Merci Curien pour votre invitation.